Derrière ces murs, le pouvoir chinois tente de museler la minorité musulmane ouïghour. Détention arbitraire, rééducation idéologique, parfois torture, des dizaines de camps d'internement comme celui-ci ont été construits ces dernières années dans la région de Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Une politique d'internement massif dénoncée par des médias internationaux qui ont eu accès à des documents confidentiels du régime chinois. Mensonges et affabulations, rétorque Pékin, qui affirme agir au nom de la lutte contre le terrorisme.
Les affaires du Xinjiang sont purement des affaires intérieures de la Chine. Les tentatives de certains médias pour salir les efforts chinois contre le terrorisme et l'extrémisme au Xinjiang ne réussiront pas.
Les révélations sur la politique quasi totalitaire menée par le président Xi Jinping télescopent une autre réalité, l'intransigeance de Pékin vis-à-vis de Hong Kong, où le camp pro-démocratie a remporté des élections locales le week-end dernier. Pour autant, après 6 mois de crise, les espoirs d'ouverture sont minces. À Washington, le Congrès américain a haussé le ton en adoptant une résolution en faveur des droits de l'homme et de la démocratie à Hong Kong.
Si les États-Unis ne défendent pas les droits de l'homme en Chine, en raison d'intérêts commerciaux, nous perdrons toute autorité morale pour défendre les droits de l'homme ailleurs.
Alors, l'Europe, à l'image des États-Unis, doit-elle se montrer plus ferme avec Pékin ? Est-il possible de boycotter les produits fabriqués en Chine ? Ou bien sommes-nous devenus trop dépendants au « Made in China » pour défendre nos valeurs ?
Et pour en parler, nos trois invités, Jean-Pierre, qui nous adressait cette question-là, pourquoi sanctionner la Chine aujourd'hui, alors que ce pays se comporte de cette manière depuis des décennies? Emmanuel Dubois de Prisque, avez-vous le sentiment qu'on fait tous un peu semblant de découvrir ce qui se passe aujourd'hui en Chine, comme s'il y avait eu un basculement autoritaire pour des choses qui se sont déjà déroulées, qui étaient déjà documentées bien avant ça?
Alors, si je peux me permettre, j'appelle pas au boycott de la Chine. Simplement, j'émettais l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un mouvement de boycott en 2022 au moment des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Mm-hmm. Mais moi-même, je suis un observateur, j'appelle pas du tout au boycott de la Chine. En plus, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement, enfin, de boycotter la Chine, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Sur votre question, je pense qu'il y a quand même des choses qui apparaissent quand même depuis quelques années, qui sont assez troublantes et qui expliquent en fait une forme de prise de conscience sur ce qu'est le régime chinois. Vous avez donc ce qui est sorti très récemment dans la presse occidentale, donc le New York Times, puis hier dans Le Monde, sur le vaste projet de redressement, de rééducation des populations musulmanes du Xinjiang, qui sont quand même très très inquiétants.
Ce qu'on le savait déjà.
Ce qu'on savait déjà, mais pas dans ces détails. Et en fait, on manquait un petit peu de preuves concrètes, puisqu'il y avait un chercheur qui avait sorti des choses, mais Pékin était en mesure de dire que tout ça, c'était des affabulations occidentales. Donc on est heureux aujourd'hui, si on peut dire, d'avoir le signe tangible que ce projet existe. Et donc que ça puisse provoquer une réaction, moi je trouve ça plutôt sain, effectivement.
Claude, alors précisément, le chiffre du jour
témoigne de l'ampleur de cette répression qu'on connaissait déjà, mais qu'on a découvert mieux documentée. Un million, c'est le nombre de Ouïghours qui sont passés depuis 3 ans par les camps de redressement, de concentration, de rééducation, comme vous voudrez, on va en discuter, chinois. 1 million de personnes sur une population de 11,5 millions, 1 sur 11. Juste pour commencer, Agnès Godu, qui sont les Ouïghours? C'est une population musulmane, mais aussi turcophone, qui inquiète le régime chinois?
C'est la population de la région du Xinjiang. C'est une population effectivement turcophone, turkmène, qui le Xinjiang ayant été intégré à la Chine au moment de la révolution chinoise, qui ne s'est jamais complètement intégré à la Chine du point de vue ethnique, c'est-à-dire que c'est une ethnie vraiment séparée. C'est une province d'ailleurs soi-disant autonome. Hein. C'est comme le Tibet. Ce sont des régions autonomes de minorités, normalement régies par les minorités.
Autonome et irrédentiste, voire terroriste aussi. Il y a eu de vrais problèmes sécuritaires et terroristes au Xinjiang.
Alors, il y a eu de vrais problèmes de sécurité dont on a entendu parler sérieusement autour de 2014, avec plusieurs incidents dans des gares, à la gare de Kunming, à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang. En même temps, l'ampleur de ces problèmes est extrêmement difficile à savoir. Hier d'ailleurs, la réaction de l'ambassadeur de Chine à Londres a été de dire que depuis quelques années, des milliers d'attentats terroristes avaient fait des milliers de victimes. Si c'est réellement le cas, alors la presse n'a pas fait son travail.
Oui, car on n'en avait pas été informé, Jean-Paul Chang.
Je crois que ce que l'ambassadeur de Chine à Londres a dit exactement, c'est que c'est ce qu'il répète ce que le gouvernement chinois dit depuis des années. Mm-hmm. C'est entre 1990 et 2016, il y a eu des milliers de cas de violence et que le problème, de toute façon, le problème sécessionniste ou terroriste, je veux dire, c'est un problème bien connu. Parce que,
il y a eu des Ouïghours qui sont partis rejoindre le djihad, notamment dans l'État islamique récemment,
l'État islamique,
dans d'autres groupes.
Al-Qaïda d'abord, et on les a retrouvés en Syrie. L'organisation du Turkestan oriental a été décrétée par l'ONU comme organisation terroriste à une époque. Donc, je veux dire, bon, si le problème n'était pas aussi important, c'est-à-dire si la menace sécessionniste, radicalisation et terroriste n'était pas aussi important, on se demande pourquoi le gouvernement chinois utiliserait tout son appareil répressif pour ça.
Il n'y a pas une légère asymétrie quand même, incarcérer plus d'un million de gens pour répondre à quelque chose qui a concerné quelques milliers de personnes ?
Alors, écoutez, c'est un problème, comment dire. Les Chinois se sont inspirés, finalement, de ce qui s'est passé en Occident, quelque part, et ils ont voulu puiser même dans des idées américaines d'après le 11 septembre.
Non, pas dans les Guantanamo meilleurs.
Pardon.
Pas dans les meilleures idées, en l'occurrence.
C'est
pensé à Guantanamo.
Je ne porte aucun
jugement sûr,
là-dessus.
Oui, bien sûr,
mais... Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un État qui est effectivement policier, autoritaire, quand il décide qu'il va s'attaquer au problème à la base pour déradicaliser. Donc ensuite,
mais est-ce que ce n'est pas aussi, pardonnez-moi, Emmanuel Dubois-Dupris, c'est pas aussi un État qui semble, pardonnez-moi, Jean-Paul, un État qui semble apeuré. Un million de personnes dans des camps pour des actes terroristes, des familles séparées, des exilés ouïghours persécutés. On a vu ça dans la presse aussi. Est-ce que ça ne montre pas avant tout que l'appareil d'État chinois a peur?
Je pense que dans une certaine mesure, c'est vrai. Je pense qu'il y a le sentiment aujourd'hui qu'il y a énormément de forces centrifuges en fait, qui s'exercent sur la Chine, en particulier au Xinjiang. C'est pour ça qu'en fait, moi je suis très gêné quand on mélange le problème terroriste. On peut comprendre effectivement qu'il y a une répression contre les actes terroristes et le séparatisme ouïghour, qui est en fait un problème complètement différent. Il y a une identité ouïghour qui existe, qui réclame plus d'autonomie, qui réclame la liberté de pratiquer sa religion, qui réclame la liberté de pouvoir poursuivre dans son être civilisationnel, si on peut dire. Et on ne voit pas pourquoi le régime chinois refuse à cette population-là de pouvoir vivre sa culture comme il l'entend. Après, qu'il y ait une répression terroriste, c'est autre chose. Mais le problème de la Chine, du gouvernement chinois, c'est de mélanger ces deux plans qui doivent être soigneusement distingués, à mon avis. Distinguer, d'une part, les revendications, y compris séparatistes, qui sont légitimes, et le terrorisme, qui est une violence indiscriminée contre les civils, qui doit être sévèrement réprimée. Mais le problème, c'est que dans ces camps de rééducation, tout est mélangé.
Oui, vous voulez rajouter un mot?
Le séparatisme, en plus, reste à prouver. L'une des personnalités les plus connues qui vient de recevoir le prix Sakharov, Ilham Tohti, qui est incarcéré pour séparatisme, est quelqu'un dont les écrits qu'on peut lire, qu'on a traduits à Courrier International, appellent à la discussion, au pluralisme, à l'ouverture, et pas au séparatisme.
D'accord. On évoque la Chine et son rapport aux droits humains,
Nadia. Oui, et notamment la non-réaction plutôt des pays arabo-musulmans sur ce sujet-là, sur celui des droits humains et du sort réservé aux Ouïghours. On l'a constaté à plusieurs reprises ces derniers mois.